Alors justement, vous êtes en tant que président, vous êtes l'homme qui parlait à l'oreille des ministres, hein, qui passe et qui trépasse. Alors parfois, vous leur parlez un peu fort parce qu'ils ont un petit peu de mal à entendre. Pourquoi le cinéma est-il attaqué en permanence, son système de financement, son architecture, c'est de manière un peu récurrente? Pourquoi il y a toujours un petit peu ce fond d'attaque sur le cinéma?
Le cinéma, c'est à la fois le strass et les paillettes, c'est à la fois une industrie, et puis je le disais à l'instant, c'est un lieu au cœur de la cité, un lieu de médiation culturelle, un lieu social. Le cinéma, ça reste le lieu du premier baiser. C'est toujours drôle de dire ça, mais c'est une réalité. C'est le premier lieu où vos parents vous laissent aller tout seul parce que c'est proche de chez vous, on y va à pied, on connaît les gens qui l'exploitent, et donc c'est un lieu d'émancipation sociale. C'est là où on va créer sa communauté, où on va aller avec ses copains, où on va avoir ses premières relations de partage, de discussion sur un film. Et donc, c'est tout ça à la fois, le strass, les paillettes, etc. Et donc, c'est facile d'attaquer le cinéma. Hein. C'est très facile, il y a beaucoup d'argent, alors qu'il n'y a pas tant d'argent public que ça, puisque c'est un système qui est autofinancé par un système de taxes. Quand vous achetez votre billet de cinéma, vous payez en fait une taxe qui va permettre de financer le premier film d'une jeune créatrice ou d'un jeune créateur, qui va permettre de financer la rénovation du cinéma Lomnia ou prochainement du cinéma Mercure, qui va aussi permettre de classer les salariés essais et de leur donner une subvention pour passer des films plus difficiles et moins grand public. Alors c'est facile hein, d'attaquer ça, hein. Il y a beaucoup d'argent, hein. Le budget du CNC c'est plusieurs centaines de millions d'euros, enfin pas tout à fait, mais enfin, c'est 150 millions d'euros sur la partie, c'est 800 millions d'euros au global, mais sur la partie des salles, c'est 150 millions. Donc voilà, enfin, c'est très, très, très facile à attaquer. Et puis, voilà, quand vous voyez des sommes pareilles, il y a un système qui est objectivement, moi je fais le tour du monde, hein, c'est un système qui fait l'admiration de tout le monde aujourd'hui. Le Maroc aujourd'hui est en train de créer un système complètement équivalent parce que le Maroc a compris que pour avoir un cinéma marocain avec des jeunes auteurs et autrices marocains, il fallait des salles. Et le Maroc construit actuellement partout sur le royaume des salles de cinéma publiques dans lesquelles les films vont passer. Alors, à la fois, bah, c'est toujours pareil en France, hein, ce qui marche bien, on l'attaque assez facilement. Bon, voilà, sur ce, soyons très clairs, hein, on a quand même l'oreille des politiques, la moitié des salles de cinéma en France, hein, il y a 2000 salles de lieux de cinéma, la moitié de ces salles sont d'une façon ou d'une autre liées aux collectivités territoriales, hein, je le disais, l'Omnia appartient à la ville de Rouen, le Mercure à Elbeuf appartient à la ville d'Elbeuf. Il y a des actions très importantes. La région investit massivement dans la rénovation des salles de cinéma partout sur le territoire. Il y a quand même une prise de conscience que pour avoir un cinéma français, il faut des salles de cinéma françaises. Je dirais que depuis les années 80, et Jacques Lang, c'est ce qu'on a véritablement compris. C'est-à-dire que les deux étaient absolument nécessaires, des salles et des films.
Alors, vous l'avez dit, vous allez partout où il faut défendre et promouvoir le cinéma. Mais vous allez aussi souvent... En fait, tous les ans, peut-être même, hein, vous allez nous le dire, dans une destination bien particulière. Alors, vous avez reconnu évidemment la musique de Camille Saint-Saëns, hein, l'aquarium, qui sert, vous allez nous dire un peu à quoi d'ailleurs.
C'est les marches.
Alors, il se dit que c'est bientôt votre anniversaire.
Il se dit, oui.
Et que votre anniversaire, en fait, ça fait un certain nombre d'années, peut-être vous direz combien, que vous le fêtez au Festival de Cannes.
Eh bien, écoutez, ça fait plus de 40 ans, 42 ans pour être très précis, que je vais tous les ans. Je n'en ai raté aucun. Voilà, parce que c'est... Alors là, si vous voulez, quand on est cinéphile, qu'on travaille dans le cinéma, Cannes, ça a quand même le plus bel endroit du monde où aller pour voir des films. Toute la profession est là, mais pas que la profession. Enfin, je veux dire, le monde entier du cinéma est là. C'est un mélange où vous voyez beaucoup de gens, beaucoup d'auteurs, d'autrices, d'immenses talents, vous voyez beaucoup de films. Voilà, il y a beaucoup de journalistes. Hein. Je crois que Radio HDR va régulièrement à Cannes et c'est tant mieux. Il y a beaucoup de jeunes. Le cœur battant du cinéma mondial est à Cannes. Et moi, j'ai la chance, alors dans mes fonctions de cumulard, j'ai la chance d'être dans le conseil d'administration du Festival de Cannes, puisque le Festival de Cannes est organisé par une association d'utilité publique. Une association qui est composée donc, d'administrateurs qui sont des représentants des grands métiers du cinéma. Mal, l'exploitation, la distribution, la production, les acteurs et actrices, etc. Et donc, c'est ce conseil d'administration qui dirige le festival. Et moi, j'ai la chance d'y aller dans ce cadre-là et d'accueillir, d'aider à accueillir les exploitants du monde entier, parce que bien sûr, il y a beaucoup d'exploitants français qui viennent. Hein. Il y a 2000 exploitants qui viennent au Festival de Cannes chaque année. Et sur ces 2000 exploitants, il y a à peu près 1200 exploitants français, mais 800 exploitants étrangers qui viennent de partout dans le monde, plus de 45 nationalités qui viennent. Et moi, mon rôle, c'est de les accueillir le mieux possible à Cannes et de leur faire essayer de voir un maximum de films.
Alors, d'accueillir les exploitants du cinéma mondial, j'entends bien, mais alors, il me semble aussi que vous avez peut-être un rôle un peu plus déterminant à Cannes. Il paraîtrait que vous êtes un peu enfermé dans un lieu tenu secret avec vos équipes. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Qu'est-ce que vous faites en fait dans ce lieu secret ?
J'ai l'habitude de dire que je suis l'homme le plus aimé, le plus détesté du festival, puisque effectivement, à Cannes, le graal absolu, c'est d'avoir un billet pour la grande salle avec ses fameuses marches et ce fameux générique que l'on entend en ouverture. Le problème de la grande salle du Festival de Cannes, c'est qu'elle n'a que 2200 places et qu'il y a environ 45 000 accrédités à Cannes. Donc, c'est alors là, pour le coup, on vient dans une économie de marché, sauf que les places sont totalement gratuites, hein, mais c'est la loi de l'offre et la demande. Alors, on a des procédures qui sont très, très, très encadrées. Il n'y a pas de favoritisme, etc. Mais néanmoins, il y a quand même 2200 personnes qui ont des billets et le reste des gens qui n'en ont pas. Et donc, effectivement, on est très, très sollicité toujours pour essayer de donner un billet. On essaye d'être le plus juste possible, que tout le monde puisse rentrer dans la grande salle. Il y a quand même 6 séances par jour, donc ça fait quand même une capacité. Mais c'est vrai que tout le monde veut voir le film dans la grande salle à la séance de 19h avec les artistes. C'est complètement compréhensible. C'est aussi ça, la magie du cinéma. Donc voilà mon travail, c'est d'essayer de réguler ça et d'être le plus juste possible pour que tout le monde puisse avoir accès à cette grande salle du festival. Vous savez, le festival, c'est la version immergée de l'iceberg, c'est cette grande salle. Mais il y a plein d'autres projections. Il y a plus d'une trentaine de salles de projection. À Cannes, simultanément, il y a plus de 30 films qui sont diffusés tous les jours. Et donc voilà, mon travail, c'est d'essayer de réguler ceux de la grande salle et les autres salles également, et d'inciter les gens à dire: vous n'avez pas pu voir le film là, mais vous pouvez le voir à tel endroit, à telle heure.
Et c'est vous qui gérez donc toute la programmation,
toute la billetterie, pas la programmation. La programmation, c'est Thierry Frémaux.
Non, mais je veux dire la programmation au sens physique du terme.
Exactement.
Lancer les films, etc.
Exactement.
Oui. Alors, par rapport à ça, est-ce que justement vous avez cette année peut-être commencer par, est-ce que vous avez un grand souvenir du Festival de Cannes, quelque chose qui vraiment vous a marqué, puisque là, bon, vous êtes quand même peut-être un de ceux qui est plus allé au Festival de Cannes le vivre pleinement depuis 40 ans, un vraiment grand souvenir, et puis peut-être par anticipation, puisque vous êtes au conseil d'administration, une grande attente par rapport à ce festival, donc qui se déroulera du 12 mai au
12 au 26.
6 mai. Voilà.
Non, 24, oui, 12 ou 24, voilà, on va y arriver. Des souvenirs, non, je ne peux pas vous en dire qu'un. Souvenirs du Festival de Cannes, j'en ai énormément. La première année où je suis allé à Cannes, j'avais donc 20 ans. La particularité, c'est que je viens de vous expliquer qu'effectivement, je m'occupe de gérer la billetterie.
Vous l'avez dit, hein, c'est pas moi.
non, je m'occupe de la billetterie de la grande salle pour les exploitants. La première année, je n'ai pas réussi à avoir de billets dans la grande salle. Donc, la première année où je suis allé à Cannes, j'ai jamais pu rentrer dans la grande salle. Donc, ça, c'était assez drôle parce que bon, maintenant, forcément, c'est un peu plus simple. Pour moi, non, des grandes soirées du festival où vous avez la soirée du 50e où vous aviez toutes les palmes d'or vivantes présentes sur scène, c'est quand même très, très impressionnant. Alors, cette année, c'est une année intéressante puisque c'est une année un peu particulière. C'est une année sans film américain ou quasiment pas de film américain. Il n'y a aucun film de studio. On avait tous pensé que Le Mandalorian, donc Star Wars sera à Cannes. On pensait que le Spielberg sera à Cannes. Ils n'y sont pas. Ça dit quelque chose quand même sur la volonté de Thierry Frémaux de s'ouvrir à l'international sur d'autres pays que l'Amérique. Il n'y a pas de studio, de grands studios hollywoodiens, aucune présence des studios hollywoodiens à Cannes cette année. Il a dû se passer quelque chose. Pour être franc, je ne suis pas dans les confidences. En tous les cas, on le note. C'est une excellente année pour le cinéma français, avec des gros projets de cinéma français. Et c'est une année très asiatique, avec beaucoup de films japonais, de films asiatiques, donc coréens, etc. Donc, avec un président coréen, sud-coréen. Et puis, c'est une année de transition 79e édition. Le festival adore les anniversaires. Donc je crois qu'il y a une forme de retenue quelque part pour essayer de préparer la 80e édition l'année prochaine. Voilà en gros ce que je dirais. La Normandie sera présente au Festival de Cannes avec De Gaulle. Hein, premier épisode, le film a été partiellement tourné et soutenu par la région Normandie. On a, Arthur Harry qui va présenter en compétition de film. Il habite Fécamp, Arthur Harry. Hein, donc voilà. Et puis, il y a plein de grands maîtres du cinéma qui reviennent pour essayer d'avoir une nouvelle Palme d'Or. Almodovar, moi, c'est celui que j'attends le plus, bien sûr, parce que j'adore Almodovar. Mais il y en a plein d'autres. Donc voilà, de toute façon, je vais vous dire quelque chose. À chaque fois que je termine le Festival de Cannes, je me dis c'est mon plus beau Festival de Cannes. Jamais on pourra faire mieux. Et l'année suivante, depuis 30 ans, à chaque fois on fait mieux. 40 ans, je vous disais. Puis 40 ans, à chaque fois on fait mieux. Et à chaque fois, c'est un bonheur. Voilà. Encore une fois, c'est le lieu magique pour être quand on aime le cinéma.
Donc c'est vraiment le plus grand festival du monde, selon vous?
Incontestablement. Non, mais ce n'est pas selon moi, selon le monde entier.
D'accord. Le monde entier, bon, d'accord.
Même les Américains le disent. Et d'ailleurs, sont frustrés de ne pas venir cette année.
Et est-ce que ça a une vraie importance? On a eu l'année dernière une année un peu horribilis, hein, c'est-à-dire, oui, sur la fréquentation. Alors moi, j'ai quand même un petit truc. L'année dernière, je vous ai rencontré dans votre cinéma à Elbeuf. L'année dernière, hein, vraiment, mois pour mois. Et vous m'aviez dit à ce moment-là, enfin pas à moi spécialement, mais vous avez dit à ce moment-là que Marsupilami, qui sortait donc un an après, hein, ferait 6 millions d'entrées. Et que donc, il ne fallait pas s'inquiéter sur la fréquentation. Certes, c'était une année horribilis, mais ça allait reprendre et que ce film, Marsupilami, ferait 6 millions d'entrées. Or, bon, donc, il vient de franchir cette semaine les 6 millions d'entrées. Donc, à un moment, je me suis dit, bon, là, Richard Patry, en plus, il a des médiums, il a un côté,
non,
comme ça, divinatoire. Ou est-ce que c'est important, comment en fait, ou est-ce que plutôt vous avez une connaissance de ce qui fait un bon film, de ce qui fait un bon cinéma et de ce qui fait une bonne fréquentation? Et est-ce que Cannes, par exemple, est un moteur pour la fréquentation sur ce qui, l'année qui va venir?
Alors vous avez totalement raison sur les films, disons plutôt art et essai. Cannes est un lieu de passage obligé. Cannes est un booster de carrière, sans aucun doute de ce point de vue-là. Sur le Marsupilami, j'avais un peu triché, puisque une des particularités d'Elbeuf, c'est que depuis très longtemps, parce que je lis, on va dire, avec les artistes, un lien de confiance, beaucoup de films, et en particulier de films populaires, sont testés à Elbeuf. Et donc le Marsupilami, moi, je l'avais vu avant de vous rencontrer, puisqu'il a été testé au mois de juin l'année dernière, à Elbeuf, à la sortie du tournage. L'équipe de Philippe Lachaud est venue à Elbeuf pour présenter le Marsupilami. Il n'était même pas terminé d'ailleurs. Les maquettes, le Marsupilami lui-même n'était pas vivant. Il y avait soit des marionnettes, soit on disait il va être là, etc. Et il y a eu une discussion avec le public et à la première seconde, j'ai donc assisté à la projection avec tout le monde, puisque je n'avais pas vu le film avant, hein, encore une fois, il sortait de montage. Et à la première seconde, quand j'ai vu la salle d'Elbeuf réagir, je me suis dit ça va être un gros hit. Alors, les 6 millions, c'est un peu de bol, hein, j'aurais pu vous dire 7 ou 5. Bon, j'ai dit 6. Bon, voilà, en tous les cas, à 6 millions, c'est un gros succès. Voilà, et donc on l'avait senti, et Philippe Lachaud l'avait senti, puisque globalement, peu de gens le savent, mais après cette projection d'Elbeuf, en fait, le film a été un tout petit peu remonté. Une ou deux scènes ont été supprimées parce que, justement, le public ne comprenait pas. Donc, voilà. Oui, bien. Alors, et donc, pour le Festival de Cannes, bien évidemment, que ce soit la Palme d'Or, jamais une Palme d'Or fait toujours beaucoup, beaucoup d'entrées en France grâce au Festival de Cannes.
Alors, par rapport aux entrées aussi, parce que bon, c'est quand même évidemment quelque chose de très 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 prégnant. Hein. On l'a dit, pourquoi le cinéma en France fonctionne bien? Moi, je pense qu'il y a aussi beaucoup parce que même si les exploitants de cinéma sont des impénitents râleurs, c'est quand même des gens qui investissent, qui travaillent beaucoup. Je rappelle que les cinémas, c'est la seule chose avec le magasin Louis Vuitton de Deauville qui est ouvert 7 jours sur 7 toute l'année, 12 mois de l'année. Donc, c'est quand même quelque chose de très particulier. Il y a une attaque qui revient tout le temps et qui, je pense, doit vous agacer, c'est la question du prix du cinéma. Et notamment, est-ce que c'est le cinéma, finalement, c'est pas si cher que ça? Et notamment, bon, les cinémas Omnia, les cinémas Noé, lapsus, surtout le département, etc., affichent des prix qui sont très concurrentiels. Enfin, voilà,
alors, disons. Oui, on peut afficher des prix concurrentiels parce que, dans l'absolu, on, on, je le disais tout à l'heure, on est en délégation de service public, donc on a des obligations par rapport à cette obligation de service public. Alors, le cinéma est trop cher, la culture est-elle trop chère? C'est une vraie question. C'est-à-dire, si vous avez une heure, on débat là-dessus sur le prix de la culture. Hein. Mais la culture, c'est toujours trop cher parce que on a l'impression que la culture, ça peut être gratuit. Mais non, la culture, ça peut jamais être gratuit. Le cinéma en France, hein, c'est 7,20 € le prix moyen d'une place de cinéma. Sincèrement, il y a quand même assez peu de choses dans le domaine culturel qui sont aussi peu chères. On a la chance d'avoir des collectivités territoriales qui nous permettent de maintenir ces prix-là. Une place pour Céline Dion, je ne sais pas si vous avez été tiré au sort, Benoît, mais une place pour Céline Dion, ça va coûter un peu plus cher que 7,20 €. Donc bien sûr, il faut consommer, je prends ce mot que je n'aime pas du tout, le cinéma comme les autres biens, c'est-à-dire qu'il faut regarder, prendre des cartes d'abonnement, il faut regarder. Si vous arrivez effectivement au cinéma un samedi soir à 20h pour voir le film que tout le monde va voir, oui, vous allez payer un peu cher, un peu plus cher que ça, un peu plus cher que 7 €, plutôt autour de 9, 10 et 15 dans certains grands cinémas. Par contre, même dans ces grands cinémas, et je les défends parce que je ne veux pas défendre que le groupe Noé, même dans ces grands cinémas, vous avez des offres qui vous permettent d'aller au cinéma pour des coûts autour de 5, 6, 7 €. Voilà, 2 heures d'excellence, on en parlait, hein, on fait d'énormes investissements, il faut les rentabiliser derrière. Vous en prenez pour 2 heures, encore une fois, à la Foire Saint-Romain en septembre, un tour de manège, ça coûte ce prix-là. Hein, donc, et vous en avez que pour 2 minutes et vous avez peur, et ça ne sert à rien. Bon, bref, donc venez plutôt au cinéma.
Un grand merci Richard Patry, en tout cas pour être venu ici. Je sais que vous allez partout dans le monde, encore une fois, défendre le cinéma, faire la promotion du cinéma. Vous êtes venu par HDR en direct ici, 99.1. Et vraiment pour nous, c'est un grand plaisir.
Non, mais c'était un vrai, vrai plaisir pour moi aussi. Bon, je suis ravi d'avoir découvert cette radio.
Alors l'année prochaine, hein, si j'ai bien compté, c'est les 40 ans de Noé Cinéma. Peut-être qu'on peut prendre...
On peut prendre rendez-vous.
On peut prendre rendez-vous, voilà. En tout cas, merci à vous et bonne continuation. Bon festival de Cannes. Et maintenant on va passer au
Coup de cœur culture de la team HDR.
Le coup de cœur culture de la team HDR, ils ont lu, vu ou écouté pour nous. C'est Iman aujourd'hui qui nous parle de The Drama, un autre grand film américain qui est à l'affiche depuis près de 20 jours maintenant, Iman.
Effectivement, je suis partie voir The Drama il y a maintenant une bonne semaine, mais je voulais juste faire une petite dédicace au film Michael qui m'a absolument retourné le cerveau il y a 2 jours quand il est sorti. Enfin bref, on en reparlera lors de la matinale sûrement. En tout cas, The Drama, c'est un film que tout le monde attendait. Pourquoi ? D'abord pour son duo d'affiches, Zendaya, l'icône d'Euphoria, ou pour la génération Z comme moi, Shake It Up, et Robert Pattinson, connu pour Batman ou Twilight ou même Harry Potter. Sur le papier, c'est le casting parfait pour une romance qui ne manque pas d'humour. Le pitch est assez simple mais efficace. À quelques jours de leur mariage, un jeune couple décide de se dire toute la vérité. Ils s'avouent chacun le pire acte de leur vie. Est-ce que c'est une bonne idée? Je ne sais pas. Et c'est là que le fameux drama commence, quand Emma, la future mariée, lâche une bombe qui laisse son futur conjoint sous le choc. L'intrigue, elle est assez accrocheuse. Hein. C'est aussi pour ça que j'y suis allée. Mais pour moi, j'étais un peu déçue parce que j'avais une haute attente au vu du casting et du pitch. Mais je trouvais que le sujet principal, sans spoil, était traité de manière un peu maladroite. On a parlé de santé mentale, hein, pour rester un peu vague. Et je trouvais que ça aurait pu être un petit peu plus fin. Bon, ça c'est ma réflexion, je ne suis pas une experte en cinéma, je représente, on va dire, le peuple. Côté chiffres, le public est plutôt conquis avec une note de 3,5 sur Allociné. De mon côté, j'aurais été un peu plus sévère, j'aurais mis 6,5 ou 7 sur 10. Et pour être honnête, à la fin, je trouvais que c'était un petit peu long.
Voilà. Bon. C'est pas un véritable coup de cœur.
Non, mais ça reste un bon film.
D'accord. Alors, un autre coup de cœur. Là, c'est un vrai coup de cœur. Hein. On est d'accord. Hein. Sonia nous recommande le prochain concert de la Maison Illuminée qui ouvre la saison des Jeudis de Saint-Maclou dans l'église du même nom, Armand. Et c'est Oswald Salaberger, chef d'orchestre, qui a répondu à ces questions.
Oui, si vous avez une envie, une petite parenthèse enchantée pour vos soirées du printemps, si vous aimez les concerts, spectacles et l'atmosphère unique des lieux chargés d'histoire, nous avons une pépite culturelle à vous partager pour les mois de mai, juin et jusqu'à juillet. L'association La Maison Illuminée nous invite à découvrir son événement phare, les Jeudis de Saint-Maclou. Un cadre prestigieux, intime et chaleureux. Chaque jeudi soir, la magnifique église Saint-Maclou, joyeux du gothique flamboyant situé rue de la République, ouvre ses portes à la musique. C'est l'occasion idéale de profiter de la douceur printanière dans un lieu hors du commun, avec l'acoustique exceptionnelle, sublime, chaque note. Tous les jeudis du 21 mai jusqu'au 9 juillet, pardon, hormis le 19 juin, ce sera un vendredi. Pour tout ce qui concerne les billets, vous pouvez réserver vos places sur la plateforme AlloAsso, directement sur place à votre arrivée. L'info la plus importante, c'est que l'événement est gratuit pour les moins de 18 ans, une occasion parfaite pour sortir en famille, entre amis. Et pour ceux qui ne le savent pas encore, Benoît, votre chroniqueur préféré, également président de la Maison Illuminée. Nous avons pu rencontrer le chef d'orchestre et directeur artistique, Oswald Salaberger. Il nous a confié l'esprit de ces soirées et c'est une habitude de ces salles de concert ou simplement où il y a une quête de détente, une quête pour se retrouver tous ensemble. Notez bien dans vos agendas, dès le 21 mai, vos jeudis de soir changent de dimension, changent d'ambiance, et ce, pour tous et toutes. Pour nous mettre dans l'ambiance, nous écoutons tout de suite Oswald Salaberger qui nous illumine.
Donc on propose ces rendez-vous tous les jeudis à partir du 21 mai à 20h, à l'église Saint-Maclou, à Rouen. Et le répertoire est classique au plus beau, Mozart, Beethoven, Bach, Vivaldi, mais aussi des découvertes. Et surtout, on va dire, des partitions qui sont un petit peu arrangées à aujourd'hui. Et on fait aussi des pas de côté vers le jazz, mais toujours avec un regard à partir de la musique classique. Quand on joue du jazz, on joue par exemple du Debussy ou du gospel, qui sont des racines pour des grands jazzmen anciens. C'est évidemment pour des gens qui connaissent un peu mieux les classiques, qui aiment revoir une autre version, une version un petit peu moderne, mais aussi, je pense, c'est pour ça aussi, on met du grand répertoire, du Mozart, du Beethoven, du Bach, du Vivaldi, les quatre saisons, les concerts de Beethoven, les symphonies de Mozart, les concerts de Brandebourgeois de Bach, pour attirer des nouveaux, puisqu'il me semble dans le temps qui court, les crises, beaucoup d'agressivité, il est important de vivre ces moments de recueillement ensemble et d'ouverture et de joie. Il faut qu'on sourisse ensemble, qu'on se réjouit de la vie ensemble. Et la musique peut transporter cela dans la vie de chacun et chacune. Et nous sommes des passeurs, rien d'autre. Je suis très heureux d'être celui qui pouvait organiser et puis jouer ces belles pages de musique et avec des découvertes. C'est pas seulement le classique. Certes, c'est au centre, mais quand même avec un rayonnement vers d'autres répertoires.
Voilà, la saison, les jeudis de Saint-Maclou de la Maison Illuminée, vous écoutiez le chef d'orchestre Oswald Salaberger, ça démarre jeudi 21 mai à l'église Saint-Maclou, place Barthélemy, je crois, c'est ça?
Oui.
Tout à fait, voilà. Maintenant, nous partons en Irak. C'est Amy qui nous emmène en Irak et qui nous parle de ce livre qui a reçu en 2021 le prix Goncourt du premier roman « Que sur toi se lamente le tigre », une tragédie autour d'un crime d'honneur, Amy.
C'est l'histoire d'un véritable conte à rebours en Irak. Une tragédie, le destin d'une jeune femme irakienne qu'on sait condamnée dès le début de la lecture. Son crime, avoir aimé et être tombée enceinte hors mariage. Son bourreau, son propre frère aîné, chargé de laver l'affront. Car ici, l'honneur est plus important que la vie. Chaque chapitre donne la parole à un membre de la famille, permettant de confronter leurs points de vue tous différents. Mais ils ont un point commun, ils sont victimes et complices des traditions. D'ailleurs, petit détail, chaque nouveau narrateur est introduit dans le chapitre précédent. Son récit est coupé par des passages de l'épopée de Gilgamesh et qui rend le tigre vivant. Il est témoin de cette tragédie qui se répète encore et encore, depuis des millénaires. Il est un peu difficile à suivre, car il y a beaucoup de retours en arrière, de flashbacks. Mais plus on avance, plus tout devient clair. Et il y a un détail que j'ai trouvé très intéressant. Notre victime n'a pas de nom, donc ça rend le récit universel. C'est un roman court, mais poignant, transperçant. Il reçoit le prix Goncourt du premier roman 2021, et on comprend pourquoi. C'est un premier roman magistral.
Oui, que sur toi se lamente le tigre d'Emilienne Malfatto. On a vérifié, l'ouvrage est disponible dans vos bibliothèques préférées du réseau à Rouen. Il y a même un livre audio qui est disponible, je crois, à la bibliothèque Simone de Beauvoir. Allez l'emprunter, franchement, c'est un très très beau récit, c'est très court. C'est un film, c'est un livre coup de poing. Voilà, on part en Turquie avec le Festival de la Turquie le 23 et 24 mai au Parc Expo de Rouen. C'est Sonia et Iman qui nous recommandent ce voyage. On écoute l'organisateur au micro des filles, Özkan Çilingir.
L'association, elle existe depuis une trentaine d'années. Moi, j'ai repris il y a à peu près 10 ans avec des gens de mon âge, de ma génération, pour pouvoir donner une nouvelle aventure, justement, une nouvelle image par rapport à la communauté turque. Et c'est vrai qu'on avait l'habitude de faire des organisations dans l'association, des journées kermesses ludiques pour les enfants, aussi des ventes de choses, de repas culinaires. Et à un moment donné, les dames, hein, comme à chaque fois, qui sont à l'innovation, sont venues nous voir en nous disant écoutez, on a besoin de plus de place, on manque un peu de place, et nous, on aimerait bien aussi un petit peu s'ouvrir à l'extérieur. Donc, comment on peut faire pour que ce projet grandisse un peu, parce qu'on est un petit peu à l'étroit. Et vous savez, la communauté turque, elle a été longtemps un petit peu catégorisée en étant communautaire, un petit peu renfermée sur elle-même. Malheureusement, c'est l'image que nous avons de l'extérieur. En réalité, quand on est, nous, à l'intérieur, en tant que franco-turc, on n'a pas cette perception. Et c'est une image qui est réelle, qui est justifiée par les gens qui nous regardent de l'extérieur. Et je l'accepte et je la comprends totalement. Sauf que quand vous êtes à l'intérieur, vous voulez un petit peu brider ou casser cette image-là. Et donc, la première chose que nous avons fait il y a 9 ans, c'est on a demandé une salle communale à la ville de Cantleux et on a commencé à faire un premier événement. Et aujourd'hui, nous allons réaliser pour la 4e fois cet événement au Parc Expo. C'est la 9e édition. Donc, quand on avait commencé, on n'avait pas imaginé non plus que ça allait prendre autant d'envergure. Et pour parler un peu de chiffres, c'est sur 2 jours. Et on brasse à peu près, à minima, entre 10 et 12 000 personnes sur les 2 jours.
Si vous deviez définir l'ambiance de cette édition en 3 mots, ce serait lesquels ?
Festif, déjà. Tout âge, et ça c'est important pour nous, et qui favorise le vivre ensemble. Je pense que ce seraient les 3 mots, comme ça, brut de décoffrage.
C'est un événement qui est connu pour rassembler énormément d'artistes, d'ateliers différents. Mmh. Quels sont justement les artistes ou les expositions un peu phares de cette année ?
Si vous voulez, pendant 2 jours, nous avons 2 aspects. Il y a toute la partie culinaire qui est développée. Nous aimons, la communauté turque aime bien et est un peu fière de ce qu'elle propose en termes de culinaire. C'est un pays très varié et très vaste qui peut proposer plein de variétés différentes en fonction si vous êtes au sud-ouest de la Turquie ou au sud-est ou au nord. Donc il y a beaucoup de stands qui sont autour des repas. Un peu à l'idée d'un street food qu'on peut avoir dans d'autres événements. Après, il y a toute la partie culturelle qui est développée. Sur scène, il va y avoir également des présentations de calligraphie, d'un souffleur de verre. Après, on va commencer un petit peu monter en puissance avec la représentation de danse folklorique, mais justement de toute la partie sud-est de la Turquie et du nord, et pour finir avec le sud-ouest. Parce que les chants et les danses et les vêtements sont complètement différents. Donc petit à petit, on monte en pression. Après, on continue à monter un peu l'ambiance avec des chanteurs, donc plutôt des chanteurs locaux connus pour forcément une région du pays, donc avec des instruments différents. Ça va être la guitare turque qui ressemble un peu à l'électro-guitare que nous avons, mais sans la partie électro. Dans un second temps, après, vers la soirée, on continue sur des concerts un peu plus actifs. Et là, on va retourner un peu vers la mer Noire. La mer Noire, où les gens de la mer Noire écoutent beaucoup la lyre grecque. Donc là, on va retrouver un petit peu des racines aussi de la Grèce. Et en fin de soirée, donc là, on commence à monter. Et en fin de soirée, on a donc un DJ Burak, qui est très connu au niveau national, qui va faire sa prestation. Donc ça, c'est pour le samedi. Le dimanche, on retrouve, alors pour ceux qui ne sont pas venus le samedi, le dimanche, on va retrouver des événements culturels sur scène. Par exemple, le Mevlana, ce qu'on appelle les derviches tourneurs. Cette manière de tourner autour de soi-même, vous avez dû voir déjà. Qui représente justement la connexion entre Dieu et la personne. Et ça, c'est au niveau visuel, c'est très très apprécié par les gens qui ne sont pas de la communauté turque, justement. Donc ça, c'est une représentation spécialement pour eux, parce que Voilà, on a beaucoup d'invités d'horizons différents et c'est pour eux aussi qu'on organise ça. Il va y avoir une présentation de l'art du sable. Et la grande star de la soirée, du week-end d'ailleurs, c'est Semi Cenk, qui est dimanche soir, qui va être en concert. Et donc ce monsieur a fait le top